Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où chaque semaine on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui, je reçois la romancière Isabelle Sorrentz qui publie Le complexe de la sorcière aux éditions Jean-Claude Lattès. On entend beaucoup parler de cette figure ancestrale de la sorcière depuis quelque temps et pour cause, elle est passionnante et symptomatique de notre société. Entre le 15e et le 17e siècle, des femmes majoritairement étaient pourchassées, persécutées, exécutées par les hommes, sous prétexte qu'elles représentaient le culte du diable et qu'elles incarnaient une image négative de la femme. Et pour Isabelle Sorrentz, encore aujourd'hui, les stigmates perdurent et expliqueraient bon nombre de ses questionnements d'enfance qui se répercutent nécessairement sur sa vie d'adulte. Comme une sensation d'être hors norme, d'être ici et là-bas, qui mène à une quête de soi perpétuelle et qu'elle raconte très bien dans son livre. Car on s'aperçoit rapidement que lorsqu'elle était enfant, la narratrice subissait le harcèlement scolaire, celui d'une meute sur une proie qui, à la lumière de ce livre, peut facilement se rapprocher de cette chasse aux sorcières. Et avec Isabelle Sorrentz, on parle ensemble de la raison pour laquelle Isabelle s'est penchée sur cette figure, du symbole qu'est cette sorcière, du rapport que cette dernière entretient avec le féminisme aujourd'hui, ou encore de la place de l'homme dans tout ça. Bonne écoute. Bonjour Isabelle.
Bonjour Thomas.
Alors, ça se passe entre le 15e et le 17e siècle en Europe. Des femmes sont tuées par centaines, par milliers dans ce qu'on appelle une chasse aux sorcières. Et toi, tu as décidé de t'y intéresser, de t'intéresser à ces meurtres, mais aussi à ce qu'ils réveillent dans les mémoires aujourd'hui, notamment chez toi. Alors, pour planter un peu le décor, qu'est-ce qu'elles symbolisaient, qu'est-ce qu'elles symbolisent également aujourd'hui, ces sorcières? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la quête de soi? Est-ce que c'est la sensation d'être hors norme? Est-ce que c'est un mélange de tout ça et plus encore?
Il y a beaucoup de réponses à cette question. Je crois que à l'époque, la sorcière symbolisait plusieurs choses. Ça symbolisait une quête peut-être de spiritualité et de vérité qui se faisait dans les marges, en fait, qui se faisait pas dans l'église ou dans une institution, puisque souvent les femmes accusées d'être sorcières, c'était des sages-femmes, des guérisseuses, donc c'était des personnes, on va dire, pratiques qui avaient un savoir concret. Et en même temps, qui n'avaient pas fait d'études. Donc c'était un peu des femmes marginalisées, qui pouvaient être aussi marginalisées parce qu'elles vivaient seules, parce qu'elles étaient veuves, ou parce qu'elles étaient âgées, ou parce qu'elles n'avaient pas d'enfants. Donc c'était des gens, des fois parfois des hommes, il y avait des sorcières hommes, même si c'est un mot qu'on... Les chasses aux sorcières, c'est un mot où le masculin ne l'emporte pas, mais dans ces sorcières, il y a eu aussi quelques hommes.
Ouais, bien qu'il y avait une surreprésentation des femmes.
Exactement, mais c'était donc des femmes et quelques hommes marginalisés. Après, je pense que pour l'époque moderne, puisque ce qu'on appelle les grandes chasses, ça a commencé... avec l'invention de l'imprimerie, qui a permis aussi la diffusion de certains livres qui étaient qui développaient des théories de haine en réalité, hein, et pour motiver ces féminicides. Ça représentait aussi la fin d'une époque, la fin d'un autre monde, qui était un monde justement où il y avait comme ça une spiritualité disséminée, comme il y avait pu avoir dans toute l'Europe au Moyen-Âge. Et tout d'un coup, là, il y a eu un besoin à la fois de l'Église, mais aussi des pouvoirs réglementaires, d'unifier la manière dont les gens croyaient. Donc ça représente la fin de quelque chose. Et je dirais que pour nous aujourd'hui, je crois que la figure de la sorcière, collectivement bien sûr, c'est associé au féminisme, puisque c'était des rebelles, c'est associé aussi à la défense de la nature, puisqu'il y a ce côté les herboristes, les personnes qui connaissent les plantes, c'est associé à la mystique, hein, puisqu'il y a des mystiques comme Marguerite Porret qui ont été brûlées, donc à la quête spirituelle, à quelque chose d'un petit peu... Et je crois aussi que... c'est associé à quelque chose de très individuel, la sorcière. Si ça nous parle, c'est pas uniquement pour des raisons collectives et politiques. C'est parce que j'en suis venue en écrivant le livre à me demander si la sorcière, c'était pas une instance psychique intérieure. C'est-à-dire qu'on a homme comme femme, mais une espèce de chose un petit peu presque d'un ordre impossible à attraper. Une espèce d'intelligence qui relie les différentes parties de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme une messagère, la sorcière, c'est la messagère entre nos rêves et la réalité, entre l'inconscient et le conscient. Et peut-être, moi, ce que j'ai éprouvé en tournant autour de ce qu'évoquait cette figure pour moi, c'est peut-être aussi une messagère de nos ancêtres, des voix de nos ancêtres, oui, de notre mémoire.
Ouais. Et justement, vous le dites dans le livre, mais les histoires de sorcières, elles communiquent comme une espèce de propagation de ces questionnements. Est-ce que c'est une certaine idée de ce terme désormais très usité de sororité?
Oui, tout à fait, de sororité et de résonance aussi, c'est-à-dire bien sûr sororité, puisque d'ailleurs à l'époque des grandes chasses, ouais, des fois quand il y avait deux, trois femmes qui marchaient ensemble dans la forêt pour aller laver du linge, ben, elles pouvaient être accusées de faire quelque chose. Aujourd'hui, bien sûr, avec des travaux comme ceux de l'écrivaine Wendy Delorme, mais aussi Chloé Delhomme, la sororité, ouais, ça résonne beaucoup. C'est quelque chose qui serait comme une espèce de fraternité souterraine, vous voyez, toujours le pouvoir du marché noir, de ce qui se trame par en dessous. Et en même temps, il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une autre identité, une identité qui résonne un petit peu par-delà les frontières du temps. C'est-à-dire que quand vous vous plongez comme ça dans ces pages de l'histoire et que vous êtes en train de remarquer que vous lisez des histoires qui sont arrivées au XVe siècle, des histoires terribles de femmes arrêtées, et que ça vous fait penser à des souvenirs familiaux ou à des souvenirs que vous avez vécus, qui en apparence n'ont rien à voir. Alors, bien sûr, il y a un lien, on va dire, avec l'exclusion, avec la vulnérabilité, mais il y a aussi quelque chose qui, moi, m'a paru fascinant sur l'identité. Comme si on avait parfois accès à une mémoire qui était plus ancienne que notre propre mémoire. C'est-à-dire que quand on travaille sur une figure comme la sorcière, on travaille, ouais, sur ce que ça évoque pour nous et on travaille sur ce que ça évoque depuis des siècles. Et donc on a accès à une espèce de mémoire inconsciente collective. Et cette expérience-là est très très étrange et riche.
Mais précisément, d'où vient cette sensation d'être hors norme, d'être hors groupe, et que tu mets très bien en exergue via tes histoires, tes souvenirs de petite fille persécutée à l'école.
Oui, en fait, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à lire les histoires de sorcières, ça a immédiatement résonné avec des souvenirs particuliers de mon adolescence, puisque j'ai été... aujourd'hui, on parlerait de harcèlement scolaire, qui est un terme...
complètement de harcèlement
scolaire. Voilà, je trouve très 21e siècle finalement, ouais, mais en fait donc c'était pour moi une expérience très douloureuse forcément, puisque j'avais pas d'amis, c'était dur quoi, et c'était violent. Et bien sûr, quand je lisais que les femmes accusées de sorcellerie, c'était souvent celles qui étaient un peu à l'écart, qui n'avaient pas de famille pour les défendre, ou qui étaient un peu bizarres, etc. Ouais. Forcément, en moi, ça a réveillé ces souvenirs-là. Et puis, j'étais forcément en empathie avec ces femmes bien réelles, mais mortes depuis longtemps, ouais, en me disant, oui, je connais... l'insécurité que ça peut générer, de tout d'un coup sentir que on n'est pas rattaché au groupe, en fait on est
hors groupe déjà, mais hors, oui, norme peut-être, mais...
En tout cas on est dans une position d'être justement en marge. Alors avec ce que je crois que je voulais montrer en reliant les deux, en faisant résonner les deux histoires, puisque à mesure que je découvre le portrait des femmes, de ces sorcières bien réelles, j'interroge aussi ma propre histoire de chasse, finalement, mon rapport à la chasse, ouais, en tant que personne chassée. c'est la richesse, je crois que ces expériences, en fait, elles s'enracinent dans quelque chose de très profond, de très archétypal, et même si elles sont terribles, quand vous avez été du côté des chassés, c'est comme si vous aviez aussi accès à tous les outils, à tous les savoirs, à tout un savoir invisible qui va avec l'expérience de la chasse. Et je crois que peut-être, moi, adolescente, ça m'aurait fait du bien qu'on me dise, écoute, là, tu es en train de... Vraiment, c'est horrible. On compatit avec ce que tout ce stress et ces vexations, ces humiliations que tu subis. Et en même temps, il y a quelque chose de secret là-dedans. Il y a un accès à une histoire plus vaste. Et ça, c'est peut-être cet aspect de notre identité qui en fait résonne, qui parfois s'étend sur plusieurs siècles. La manière dont les histoires individuelles, notre histoire individuelle résonne avec... en particulier ces grandes chasses, hein, notre histoire à nous, Européens. Je me demande si ça, c'est pas aussi une magie de notre psychisme qu'on a intérêt à retrouver, parce qu'elle nous rend notre amplitude.
Ça dit quoi d'une société d'avoir besoin d'un bouc émissaire via l'effet groupal, évidemment. Qu'est-ce que ça dit de nous?
Je crois que ça dit beaucoup de choses sur le conditionnement, peut-être, et la peur.
La peur est primordiale.
Oui, je crois qu'on a tous été, alors peut-être pas dans la condition de souffre-douleur ou de personne chassée, mais on a tous eu peur de l'être, et on a tous, sans aucun doute, peut-être été un peu moqueur, ou sans même s'en rendre compte.
Je pense que c'est sûr, oui.
On est tous les deux, on est tous l'inquisiteur et la sorcière, en quelque sorte. Ouais. Et ce qu'il y a d'intéressant, puisque le livre, c'est aussi un livre sur la mémoire et notre identité, finalement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que c'est notre identité, c'est que je crois que la mémoire, elle est du côté de ceux qui souffrent. Parce que si vous faites l'expérience, par exemple, moi, je ne sais pas, si un jour je me suis moquée désagréablement de quelqu'un et que cette personne a été blessée, il y a de fortes chances que je ne m'en souvienne pas, parce que pour moi, c'était rien, c'était léger. Alors que quand on a été blessé, on se souvient en fait des choses.
Oui, et ça marque et ça fait parfois des livres.
C'est ça. Et ça fait aussi qu'on a accès à une mémoire magique, je crois. Il y a quelque chose de magique dans la mémoire. Et donc la mémoire, elle est du côté de celui qui accepte sa vulnérabilité. Elle n'est pas du côté de celui qui se croit invulnérable. Et je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on est peut-être en train de dépasser, ou de tous, hommes et femmes, c'est ce besoin justement de souffre-douleur ou cette confusion qu'il y a parfois. Moi, en lisant les récits de procès ou les liens inquisiteurs-sorcières, j'étais très frappée par aussi la façon dont ça marque notre érotisme, le côté relation inquisiteur-sorcière. Ouais. Par exemple, vous le retrouvez dans Fifty Shades of Grey, dans plein de romances où il y a un homme psychorigide avec une femme sauvage, et ça fait des choses comme ça. Et en fait, je crois qu'on est aujourd'hui en train de dépasser ça, de dire on n'a pas besoin de trouver des souffres-douleurs et des boucs émissaires pour que les choses soient érotiques. On n'a pas besoin de forcément de ça pour être intense, pour être passionné. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, il y a une redistribution des passions. On est en train de les... Il se passe quelque chose. C'est comme si nos dieux changeaient de visage ou les archétypes changeaient. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se rejouer.
Alors, il y avait aussi, à l'époque, des hommes, sorcières. On l'a évoqué tout à l'heure, même s'il y avait énormément de femmes, enfin beaucoup plus de femmes. Si bien que ça éveille des peurs chez les hommes, on en parlait. La peur notamment de cette impuissance, quand les femmes... que ce soit les mères, les sœurs, les filles, se faisaient exécuter. Et ça remet en question la virilité. Il y a un épisode très significatif dans le livre, page 154 exactement.
Wow.
C'est une scène où on apprend que le frère de la narratrice, disons, était dans le même collège qu'elle, et il savait très bien qu'elle se faisait harceler, mais il ne disait rien. Il restait silencieux. Qu'est-ce que la virilité, chez les hommes notamment, a à voir avec tout ça?
Ah, c'est une très belle question, parce que je crois que ça a tout à voir. C'est-à-dire que, en fait, cette impuissance, parce que le frère, il n'ose pas parler, parce qu'il a peur d'être blessant, d'être malgré tout.
Il a peur de savoir,
oui,
qu'on sache qui c'est.
C'est ça, il a peur pour lui, il a peur pour sa sœur, donc on le comprend tout à fait. Et c'est un peu la même situation, effectivement, que ces hommes de l'époque qui, tout d'un coup, ils voient leur femme accusée, ou leur sœur, ou des amis, et ou leur mère, parce que les garçons étaient obligés de regarder leur mère brûler. Et du coup, ils sont pétrifiés, ils ne peuvent pas objectivement faire quoi que ce soit, et en même temps ils restent avec ce doute. Et si c'était vrai, si elle l'avait mérité après tout, et qu'est-ce que je dois penser de tout ça? Et je crois que il se passe quelque chose peut-être à ce moment-là, même si pour moi c'était quelque chose de très ample, et je ne voulais pas parler à la place des hommes, puisque en tant que femme, plein de fois, je crois que j'ai souffert que les hommes parlent à la place des femmes de ce qui se passe dans notre psyché, donc je ne voulais pas faire la même chose.
C'est aussi la force de l'écrivain.
Oui, oui, c'est
ça. De pouvoir se mettre à la place, d'avoir le droit.
Tout à fait, tout à fait. C'est juste. Et en tout cas, il me semble que pour les hommes, ça crée un clivage entre, je dirais, une partie très rationnelle, très... et puis une partie plus imaginative, justement, la sorcière en eux, que tout d'un coup, ils doivent écarter. Et je pense que ça a été très violent aussi. C'est-à-dire, c'est l'écartèlement entre la mystique et la raison qui se joue, je pense, à ce moment-là. Et je me demande si aujourd'hui, curieusement, avec MeToo, avec tout ce qui se passe, en réalité, les hommes ne sont pas aussi en train de regagner quelque chose qui serait de l'ordre d'une intégrité, au sens d'être entier, et plus séparé d'une mystique, d'une espèce d'intuition, qu'à ce moment-là, par la force des choses et par la cruauté des choses, ils sont obligés de mettre au secret, de mettre dans un cachot, de mettre dans un in pace, exactement comme on faisait aux sorcières à l'époque. En quelque sorte, ça n'est pas brûlé, parce que la force de la psyché, je pense, c'est qu'il y a certaines parties de nous qui sont immortelles, mais à ce moment-là, c'est terrifiant et c'est enterré. D'ailleurs, ça correspond aussi à la fin des mystiques comme Maître Eckhart ou comme Saint François, enfin tous ceux qu'il y a eu au Moyen-Âge, il n'y en a plus après. Il y a un exemple qui est assez fascinant là-dessus, c'est le célèbre savant Kepler, l'astronome. Sa mère a été accusée d'être sorcière. Et donc elle a été pendant les grandes chasses, et elle avait 70 ans, elle a été accusée, emprisonnée, et elle est morte de chagrin, enfin d'épuisement, quand il a enfin réussi à la faire libérer. Et il paraît que Kepler, c'est quelque chose qui est resté pour lui comme une blessure atroce. Donc c'est des petites traces de ce que ça a pu faire aux hommes.
Est-ce qu'on peut faire un lien avec aujourd'hui les féminicides dans ce rapport entre les hommes et les femmes? Je rappelle, petite parenthèse, on est le 15 janvier 2020, que à l'heure où je vous parle, 5 femmes déjà sont mortes, tuées par leur conjoint, par leur ex-conjoint. Parenthèse fermée. Est-ce qu'on peut faire un rapport ou pas avec ces féminicides?
Oui, sans aucun doute, parce que ce qui se noue à cette époque-là, ben évidemment, c'est une diabolisation de la femme. C'est-à-dire que il y a ces accusations de sorcière, de sorcellerie, mais avant même d'être accusées, les femmes sont déjà suspectes en quelque sorte. Elles sont suspectées de mentir, elles sont suspectées d'être faibles, et donc le diable peut facilement prendre possession d'elles. Ouais. Et donc du coup, quand on les tue, finalement, quelque part, on fait une bonne action. Il y a l'idée finalement de deux destinées spirituelles, une supérieure qui serait celle des hommes et une qui serait celle des femmes, et entre guillemets, c'est un peu moins grave quand une femme meurt. Et je pense que ça, mais aujourd'hui, c'est ce qui est en train de changer, heureusement. Mais je pense que oui, c'est profondément relié. C'est-à-dire que nous tous, en tant qu'Européens, on a quand même été marqués par c'est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de mortes, ce qui n'est pas rien, vu que la population était beaucoup moins nombreuse qu'aujourd'hui. Donc ça veut quand même dire qu'on le veuille ou non, on est les enfants de ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de le changer. Je répète que ça me semble pour le plus grand bénéfice psychique de tous.
Vous venez de parler de Kepler. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout simplement la préparation de ce livre? Est-ce que vous avez beaucoup lu? Est-ce que vous avez lu des ouvrages d'histoire, de démonologie? Parce qu'au-delà des passages sur l'enfance, c'est assez nourri quand même comme livre.
Oui, il y a eu beaucoup de recherches. C'est d'ailleurs comme ça que le livre a commencé. Hein. Moi, initialement, très souvent, je travaille avec des images. C'est des images qui me font naître l'idée d'un livre. Donc, j'imagine un personnage. Et là, j'imaginais ce personnage d'une femme au crâne rasé dans un cachot. et qui avait été accusé de sorcellerie. Donc comme ça me paraissait une bonne image, je me suis dit, je vais écrire là-dessus. Et en fait, très vite, en faisant les recherches, le premier, je dirais, choc que j'ai eu, comme je ne suis pas historienne, je ne le savais pas bien, c'était de me rendre compte que les grandes chasses n'avaient pas eu lieu au Moyen-Âge, mais à la Renaissance, à l'époque moderne, ouais. Après l'imprimerie. Pour moi, j'avoue que c'était quelque chose de très troublant, parce que j'avais associé les bûchers à une espèce d'époque obscure.
Moyenâgeuse.
Voilà. Et c'était pas, en fait, c'était en même temps que je pense, donc je suis. Voilà, celle-là, ouais. Il y a les bûchers. Donc, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup lu pour un petit peu au début. Au début, c'était vraiment pour nourrir un roman qui aurait raconté. Et en fait, ça s'est un peu passé. Ben, finalement, dans le roman, je fais que raconter cette espèce d'enquête.
C'est ça.
Sur les traces. Et finalement, très vite, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était de noter comment je réagissais au fur et à mesure de ces découvertes dans les livres et d'essayer d'attraper cet archétype de sorcière en moi, de cette sorcière intérieure qu'on a tous. Mmh. Et comment, qu'est-ce que c'était ce personnage ? Parce que dès qu'on accepte un dialogue intérieur avec un archétype, donc là en l'occurrence c'est la sorcière, c'est comme si ça vous guidait dans à la fois les méandres de votre mémoire et les méandres de l'imaginaire aussi. Donc du coup, c'était je me laissais guider à la fois dans mes souvenirs et dans les lectures, et très très vite j'étais fascinée par les résonances qu'il y avait, par exemple même avec une écrivaine comme Doris Lessing, qui a beaucoup écrit sur le self-hater, le haïsseur. Alors c'est des choses très dures à traduire parce qu'elle parle d'expériences vraiment de possession, ouais. qui révèlent la présence d'une espèce de juge sans pitié dans la psyché de ces personnages féminins, qui pour moi me semblait une espèce de trace d'une espèce d'inquisiteur intériorisé. Donc ça a été une enquête passionnante.
Et alors comment on sait, je ne connais pas votre rapport à l'écriture, ça fait 5 ans que vous n'avez pas publié de livre, il me semble, comment on sait qu'un sujet est plus important qu'un autre? Je ne sais pas si vous avez écrit d'autres livres en attendant qui n'ont pas été publiés. Comment on se dit, ce sujet, déjà c'est un livre potentiel, mais surtout il va me prendre toute mon énergie, tout mon temps, toute mon envie?
Ah, c'est une super question. En fait, ce qui s'est passé, c'est que celui-là, c'est vrai qu'il m'a pris du temps à cause des recherches.
Déjà,
et que après voilà la sortie de la faille, j'ai effectivement eu un petit temps de silence parce que je me demandais ce que j'allais faire après, si j'allais refaire une fiction comme la faille. J'avais envie de, et tout d'un coup, ça m'a vraiment attrapée. Je dirais que ça ressemble à la manière dont on écrit. Le moment où on commence quelque chose est un moment un peu étrange parce qu'on ne peut pas avoir d'emblée toute l'histoire dans la tête. Moi, j'ai souvent des images. C'est comme un tableau et on ferait des esquisses et on voit quelques-unes des scènes du tableau, mais pas le tableau entier. Et on sait... Après, ça fait un peu, vous savez, comme une rencontre amoureuse. C'est-à-dire qu'à un moment, ça converge, en fait, et on a envie de revoir la personne, en l'occurrence le personnage. Et du coup, on commence à penser à elle, puisque en l'occurrence, là, la sorcière. On commence à penser à elle entre les sessions d'écriture, et ça commence à faire plein de points inconscients. Et on commence à lui parler dans sa tête, et là, on sait que c'est parti, en réalité.
Pour revenir à cette sorcière, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a encore une bonne manière d'être une femme, une manière balisée, une manière indiquée ?
Ah oui, mais en fait, elle est quand même en train de... elle est en train de sérieusement se diffracter.
Justement, elle a
heureusement,
de se diffracter.
Oui, de devenir plein de bonnes manières, ou en tout cas de manières. Le problème, c'est que justement, ce qu'il y a de bien avec je dirais, la sorcière en nous, ouais. C'est qu'elle n'est pas définissable. Vous voyez, on ne peut pas vraiment l'attraper, de dire est-ce qu'elle ferait ceci, cela. C'est une part de nous qui est impossible à définir. Et par exemple, Michelet, dans La sorcière, son livre très connu, ouais. Sur à la fois, je dirais, historique et un peu romanesque, il dit que la bonne sorcière, quand elle deviendra une fée. Mais c'est faux. C'est une manière, je pense, de l'aseptiser, enfin, d'aseptiser une partie sauvage de nous-mêmes. Et donc, non, il n'y a pas plus de bonne manière d'être une femme que de bonne manière d'être un homme. On est des personnes en chemin. On cherche une forme d'intégrité. Et c'est cette route, mais on ne peut absolument pas définir quoi que ce soit.
En parlant de définir, est-ce qu'on sait d'où vient cette image populaire de la sorcière avec le chapeau et le balai ?
Alors ça, je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que le portrait de robot de la sorcière, de la femme qui pactise avec le diable, qui va au sabbat, qui baise avec le diable, ça s'est vraiment créé au moment de l'imprimerie, en fait. C'est-à-dire que avant le 15e siècle, il y avait des magiciens, donc des sorciers et des sorcières. Et puis, je dirais que sorcier, avant les grandes chasses, c'était plutôt une carrière masculine presque. Enfin, c'était les hommes qui étaient des mages, quoi. Et à partir du moment où il y a l'invention du pacte avec le diable, là, ça devient une femme, la sorcière. Il y a vraiment un portrait robot de la femme diabolique qui naît au 15e siècle. Après, le balai, ça vient aussi très tôt pour aller au sabbat, etc. Et le chapeau pointu, j'en ai aucune idée.
On ne sait pas, parce que j'ai lu des articles, enfin je me suis renseigné avant, et c'est vrai que la plupart des articles que j'ai lus disent sensiblement qu'ils ne savent pas trop, en fait. Mm-hmm. Qu'il n'y a pas de réponse établie, de réponse concrète à cette question. Bon, le suspense est garanti. Mm-hmm. Et justement, vous venez de parler de ces sabbats, ces réunions secrètes. Quel genre de réunion c'est ? Quel symbole ?
En fait, il y a deux réponses à cette question. Donc le sabbat, c'était vraiment ce qu'imaginait, c'est ça qui est horrible, les tortionnaires, les inquisiteurs, enfin c'était vraiment leur fantasme que ces femmes et ces quelques hommes avaient le pouvoir de s'envoler la nuit pour se retrouver dans un lieu où ils honoraient le diable. Mais en même temps, il y a aussi là-dedans une espèce de vérité onirique, je dirais, qui renvoie aux rêves lucides, qui renvoie à des espèces d'expériences presque chamaniques qui sont décrites par l'historien Carlo Ginzburg dans Le Sabbat, et qui étaient des gens qui effectivement faisaient des rêves qu'ils allaient ailleurs. Et ce qu'il y a de très passionnant, c'est que finalement, ce pouvoir qu'on reprochait à ces gens qui étaient accusés d'être sorcières, c'est le pouvoir même du récit, le pouvoir même du lecteur ou de l'écrivain, c'est-à-dire c'est le pouvoir d'être ici dans son corps et de rêver lucidement qu'on va ailleurs ou de penser qu'on va ailleurs. Et c'est exactement ce qui se produit quand on lit et quand on écrit. Et c'est pour ça que dans un sens, ça ne m'étonne pas que le fantasme du sabbat ait été créé en même temps que l'imprimerie. Parce que c'est le moment où, en quelque sorte, on découvre ce pouvoir de l'esprit qui est que, oui, il se passe quelque chose ici, mais moi, je peux imaginer que je suis ailleurs, avec une grande puissance. Et donc, finalement, les inquisiteurs s'attaquaient au pouvoir même du récit. Et donc, je pense que le sabbat, c'est la matrice même de tous nos récits.
Et enfin, une dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invitées. Quels sont tes derniers coups de cœur culturels ?
Ah oui, alors c'est super parce que j'en ai un là, tout près, que j'ai terminé
super.
Hier. C'est un roman de Joyce Carol Oates qui s'appelle L'homme sans ombre et qui est une magnifique histoire d'amour. C'est l'histoire d'une scientifique, d'une neuropsychologue qui en fait pendant 30 ans va exploiter un homme amnésique pour sa recherche, pour publier des papiers sur lui. Et en même temps, elle en tombe amoureuse. Et elle en tombe amoureuse, mais lui se souvient pas. Il a que 17 secondes de mémoire. Et donc, à chaque fois, lui retombe amoureux d'elle, en quelque sorte. Mais il ne peut pas se rappeler d'elle. Et elle va l'aimer désespérément et en même temps abuser de lui.
Je connaissais pas du tout ce livre.
C'est un livre très, très beau. Qu'on peut recommander. Oui.
Qu'on vient de recommander.
Voilà.
On s'est tutoyé, on s'est vouvoyé, c'est pas très grave, l'important, c'est le contenu, mais merci beaucoup Isabelle.
Merci Thomas.
Je rappelle que Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorrente vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Et bien voilà, la quille s'est terminée pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, si l'entretien avec Isabelle Sorrente vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des suggestions d'invités, d'améliorations également pour le podcast, n'hésitez pas à m'écrire, mais aussi à suivre la quille sur les réseaux sociaux, parce que c'est de toutes ces manières, encore une fois, que le podcast pourra grandir, pourra se développer. Merci encore pour votre fidélité, pour votre écoute, et à la semaine prochaine.